RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel L'Indonésie en couleur et le magazine musical. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. PT Inka propose des contrats de maintenance de trains au Bangladesh. L'IPI organise une expédition dans 8 îles principales. Les industries créatives et numériques indonésiennes renforcent la croissance économique de l'Indonésie. Le consulat général d'Indonésie à Jeddah a lancé un service d'information basé sur Android. L'industrie de la défense de l'Indonésie pourrait être un concurrent sérieux des autres pays. Le Royaume-Uni fournit des facilités de visas pour les hommes d'affaires indonésiens de 23 entreprises. Chers auditeurs, voici le journal complet. PT Industrie Kereta Api ou PT Inka propose des contrats de maintenance de trains au chemin de fer du Bangladesh, un agent de transport ferroviaire appartenant à l'État. Cela a été dit par le personnel de l'équipe après-vente de PT Inka, Triono, à la gare de Kamalapur à Dhaka, comme rapporté par Antara. Selon Triono, le contrat de fourniture de trains PT Inka pour Bangladesh s'est en réalité accompagné d'une garantie de 2 ans et d'une assistance opérationnelle pendant 2 ans. Toutefois, compte tenu des conditions sur le terrain, notamment en ce qui concerne l'utilisation des trains au Bangladesh, Triono a déclaré que PT Inka avait souligné l'importance des efforts de maintenance des trains dans ce pays. Triono a déclaré que les wagons et les chemins de fer fabriqués par PT Inka pour le Bangladesh étaient très puissants afin de résister à la pression s'il y a des passagers au-dessous des wagons de chemins de fer. En effet, au Bangladesh, les règles relatives à la conduite du train au-dessous des wagons des chemins de fer sont toujours autorisées. Il a indiqué que PT Inka s'est forcé, dès le début, à répondre aux besoins du train en fonction des caractéristiques de la communauté et de la situation au Bangladesh en menant des études sur le terrain. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, a organisé l'expédition de Nusa Mangala dans 8 îles avant tout aux provinces de Papouasie, Papouasie occidentale et Moluques du Nord. Le directeur du Centre de recherche océanographique de LIPI, Dilham Shah, a déclaré dans une déclaration écrite à Jakarta que l'expédition était importante pour l'Indonésie car elle servirait à formuler des recommandations au président Joko Widodo pour la gestion des îles ultrapériphériques en fonction des besoins de la communauté et des caractéristiques de ses ressources naturelles. L'expédition de Nusa Mangala se déroulait du 16 octobre au 23 décembre 2018 dans 8 îles ultrapériphériques des provinces de Papouasie occidentale et du nord de Moluques, dans la région de l'océan Pacifique, à savoir les îles Yeo, Bout, Fani, Miyosu, Fanildo, Praz, Bepondi et Liki. Selon Dilham Shah, jusqu'à présent, les informations sur le potentiel des îles ultrapériphériques ne sont pas encore suffisamment complètes. Il ne veut pas que la disparition des deux îles périphériques, telles que Sipadan et Deli Gitan, se reproduise en raison du manque d'informations sur la gestion des îles périphériques. Dilham Shah a révélé qu'il était nécessaire de disposer d'informations fondées sur des résultats de recherche complète de divers aspects, allant de la défense et la sécurité régionale, la biodiversité, la géographie régionale et à la communauté économique et sociale. Le potentiel des industries créatives et numériques renforce la croissance économique de l'Indonésie à l'avenir. Le membre du Comité national de l'économie et de l'industrie, André Sudibyo, à Jakarta, a déclaré que l'industrie créative contribue au plus grand produit intérieur brut à celui de l'industrie manufacturière au cours des 20 prochaines années. Il a expliqué qu'actuellement, la contribution du produit intérieur brut du secteur de l'industrie créative ne représente que 10 à 15%. Cependant, ces deux secteurs contribueront au produit intérieur brut jusqu'à 30% plus grand que les secteurs manufacturiers. Il a déclaré que le renforcement de l'économie de cette industrie créative avait eu lieu en Angleterre. Il développe la haute technologie et aussi des industries créatives. Tandis que pour la croissance des industries technologiques, la croissance économique est très rapide. En 2015, était de 13%, maintenant il atteint 25%. Cependant, selon lui, la croissance de l'économie numérique devrait également se méfier. Par exemple, la Chine construit une industrie en Afrique avec des fonds de des ressources humaines bon marché. Les biens produits sont exportés dans le monde entier, y compris en Indonésie, avec un soutien économique numérique pour la distribution de ces biens. Par conséquent, il est important pour l'Indonésie de protéger numériquement ses produits. Le consulat général de la République d'Indonésie, ou KJRI, à Jeddah, a lancé une application de service d'information basée sur Android et iOS nommée IKJRI Jeddah, afin de faciliter le service et la protection des citoyens indonésiens en Arabie Saoudite. Le communiqué de presse du consulat général d'Indonésie à Jeddah, reçu par l'agence de presse Antara à Jakarta, indique que cette application est en développement du consulat général d'Indonésie, Jeddah Mobile, lancé le 10 novembre 2016 et complète ses applications précédentes, à savoir SMS Gateway et WhatsApp Gateway. L'application, composée de trois langues, à savoir l'indonésien, l'arabe et l'anglais, a été présentée aux citoyens indonésiens qui séjournent dans la Madina lors de la diffusion de la citoyenneté et de l'immigration qui se déroulait à Wisma de Hajj d'Indonésie, Madina. Le consul de l'immigration du consulat général d'Indonésie à Jeddah, qui a créé cette application, Ismoyo, a déclaré que cette application présentait diverses informations sur le service consulaire, telles que la légalité et la traduction, la publication de documents et l'immigration, comme les demandes de passeport indonésien, les demandes de visa, l'enregistrement, la validation et les demandes d'installation d'immigration à double nationalité. L'industrie de la défense indonésienne est devenue un concurrent puissant pour des industries similaires d'autres pays en raison de sa capacité d'exportation à atteindre 284,1 millions de dollars américains de 2015 au 2018. Les ventes antérieures au cours de la même période ont atteint 4,5 billions de roupies. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'Agence des infrastructures du bureau du ministère de la Défense, le contre-amiral August Setiadi, lors d'une discussion tenue jeudi lors du forum Merdeka Barat 9 au bureau du gouverneur de Java East à Surabaya. L'Indonésie a exporté des équipements de défense, entre autres aux Philippines, au Sénégal, au Vietnam, en Thaïlande, en Afrique, aux Émirats Arabes Unis et au Timor-Leste. Les produits sous la forme de navires, de véhicules blindés, de véhicules de combat, d'armes et de munitions. Le gouvernement britannique fournit des facilités de visa par l'intermédiaire du Select Business Scheme aux hommes d'affaires indonésiens travaillant dans 23 entreprises sélectionnées qui ont pour rôle d'améliorer les relations économiques des deux pays. Le critère le plus important est que la société contribue largement aux relations économiques du Royaume-Uni et de l'Indonésie. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Indonésie, Muazzam Malik, a déclaré cette question jeudi à l'ambassade de Grande-Bretagne à Jakarta. À cette occasion, l'ambassadeur Malik était accompagné du directeur de la section de visa pour la région Asie-Pacifique du Royaume-Uni, Dominic Hardy, a lancé un service d'aide aux visas pour les hommes d'affaires sélectionnés en Indonésie ou le Select Business Scheme. Grâce au Select Business Scheme, les hommes d'affaires indonésiens qui travaillent dans des entreprises sélectionnées enregistrent un visa une seule fois en présentant leur passeport et l'application de visa pour une période de 2, 5 et 10 ans. L'Indonésie est le troisième pays de la région Asie-Pacifique à recevoir de la facilité SBS ou Select Business Scheme après la Chine et l'Inde. Cela signifie qu'il voit l'importance du potentiel commercial indonésien qui profite au Royaume-Uni et à l'Indonésie. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Jakarta. Le ministère de l'Éducation et de la Culture, par l'intermédiaire de la Direction générale de la Culture, a exposé un batik typique de Puro Pakualaman au Cemara Six Gallery Museum, Jakarta, jusqu'à vendredi 23 novembre. Le chef de la sous-direction du patrimoine culturel immatériel, Lien Duyari Ratnawati à Jakarta, a déclaré jeudi que cette activité était l'un des efforts du gouvernement visant à introduire davantage de diversité de motifs de batik parmi les patrimoines reconnus par l'UNESCO. Selon Lien, le batik Puro Pakualaman est l'un des motifs classiques à préserver. Dans chaque exposition du batik, le processus de fabrication du batik est toujours présenté, à savoir le batik dessiné à la main. Marie a déclaré que les expositions présentées étaient des œuvres en batik de GKBRAA, Pakualam Gusti Putri, fondées sur leur interprétation des manuscrits des Pakualaman Puro. Ensuite, les infos de Yogyakarta. le gouvernement de la ville de Yogyakarta a créé un forum pour les instituts de recherche et de services communautaires composé d'un certain nombre d'universités à Yogyakarta afin de renforcer le programme d'amélioration du bien-être communautaire. Le maire adjoint de Yogyakarta, Haru Purwadi à Yogyakarta, a déclaré vendredi que l'établissement de ce forum faisait partie d'un programme appelé Gendeng Gendong. C'est le programme d'autonomisation et de réduction de la pauvreté visant à réaliser le bien-être de la communauté et implique 5 éléments de la société tels que le gouvernement régional, le campus, l'entreprise, le village et la communauté. La dernière info vient de Manokwari, Papouasie. En 2019, le gouvernement provincial de la Papouasie-Occidentale construira des routes dans la région de montagne d'Alfa afin de soutenir le développement du secteur du tourisme et des services publics dans cette région. Le gouverneur de la Papouasie-Occidentale, Domingus Mandachan, à Manokwari, a dit jeudi que la construction de routes dans la région avait déjà commencé avec le gouvernement central et local via le Centre national de mise en œuvre des routes. Cette année et en 2019, le Centre national de mise en œuvre des routes, ou BPJN, se concentre sur des programmes de construction de routes en Papouasie-Occidentale. En ce qui concerne la construction des routes dans cette région, les habitants du village de Upper ont refusé de paver s'ils devaient emporter des matériaux tels que des pierres et du sable provenant d'autres régions. Ils veulent que le développement utilise les matériaux disponibles dans cette région. Selon le gouverneur, les souhaits des gens sont très positifs car ils peuvent réduire les coûts de développement. Même dans ce cas, les matériaux utilisés doivent être soumis à des tests de laboratoire pour garantir la qualité du bâtiment. Il a dit que la qualité de la pierre dans la région n'était pas bonne parce qu'elle était mélangée à la terre. S'il est forcé, l'asphalte peut être facilement endommagé en raison des conditions météorologiques. Les auditeurs, c'était les infos de l'Indonésie.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 24 novembre. Le 24 novembre 1914, Ruslan Abdul Ghani est né. Ruslan Abdul Ghani, né à Surabaya le 24 novembre 1914, était un homme d'État et politicien indonésien, aussi bien le ministre indonésien des Affaires étrangères, de 1956 à 1957. Il s'appelle familièrement Chak Rus. Quand les forces alliées ont débarqué à Surabaya, Ruslan Abdul Ghani a été impliqué dans plusieurs batailles. Et après le 10 novembre 1945, il a été forcé de se retirer à Malang. Ruslan a été nommé secrétaire général du ministère de l'Information, alors basé à Yogyakarta. Au moment de la deuxième agression militaire, le 19 décembre 1945, il a reçu une balle dans la main droite et plusieurs doigts ont dû être coupés. Après la présidence a changé de Sukarno à Suharto, Ruslan était l'ambassadeur auprès des Nations Unies 1967 à 1971. et président de l'équipe consultative présidentielle sur Pancasila pendant 20 ans depuis 1978. Ruslan a aussi un diplôme général 4 étoiles honneur Bintang Mahaputra. Au cours de sa vie, il était connu pour avoir des relations étroites avec le président Suharto. De son mariage à Siwati Nawangwulan, il a eu 5 enfants. Ruslan Abdul Ghani est décédé à Jakarta le 29 juin 2005 à l'âge de 90 ans en raison d'une crise cardiaque. Le 24 novembre 1963, l'assassin suspect du président américain John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, a été abattu par Jack Ruby à Dallas, au Texas. Lee Harvey Oswald est le suspect assassin du président des États-Unis, John F. Kennedy, deux jours après que John F. Kennedy a été tué exactement le 24 novembre 1963. Lee Harvey Oswald a été abattu par Jack Ruby à la télévision en direct. Lee Harvey Oswald est né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le 18 octobre 1939, d'un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, Robert Edward Lee Oswald et Marguerite France Clavery. Le 24 novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu devenait président de Zaïre, aujourd'hui le Congo. Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Waza Banga, également connu sous le nom de Mobutu ou Joseph Mobutu Sese Seko, a été président du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo pendant 32 ans, 1965 à 1997. Il est devenu le plus puissant après un coup d'État. Son vrai nom est Joseph Désiré Mobutu. Il a ensuite changé son nom. Mobutu est né à Lisala, au Congo belge, une partie de la tribu Ngbandi. En 1956, il associe le gouvernement nationaliste de Patrice Lumumba et se déclare chef d'état-major des forces armées congolaises. En 1965, Mobutu a fait le coup d'état au président Kasavubu. Ceci est fait uniquement parce qu'il n'aime pas la tension entre le président Kasavubu et le premier ministre Moïse Tshom. Mobutu s'est alors déclaré dirigeant du Congo pour les 5 prochaines années. Le 16 mai 1997, le groupe rebelle Tutsi et un groupe anti-Mobutu ont formé un mouvement de libération démocratique du Congo Zaïre. Ils ont réussi à maîtriser Kinshasa. Laurent Désiré Kabila a émergé en tant que nouveau président. Le nom du Zaïre est renvoyé au Congo ou en République démocratique du Congo. Mobutu s'est enfui au Togo. Ensuite, il a habité à Rabat, au Maroc. Dans la même année, 1997, il est mort d'un cancer de la prostate. Cher ami, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesia Cour. Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et en beau titre, le ministère de l'Agriculture développe les produits agricoles locaux de Papouasie. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec les ministères compétents, développe l'économie des provinces de Papouasie et de Papouasie-Occidentale par le biais du secteur des produits agricoles locaux afin d'améliorer la souveraineté alimentaire de la région. Le chef du Bureau des relations publiques et de l'information du ministère de l'Agriculture, Kuntoro Boga Andri, mercredi à Jakarta, a déclaré que cela était conforme à l'instruction présidentielle numéro 9, l'an 2017, concernant l'accélération du développement du bien-être social dans les deux provinces. Kuntoro a expliqué que le soutien au développement des cultures vivrières consistait en une culture de base, une unité de traitement des engrais organiques, la certification, la distribution de rectifieuses à riz, ainsi que du matériel de post-récolte et d'autres traitements. Le ministère de l'Agriculture a également alloué un budget à des activités visant à développer le riz biologique, le maïs, le soja, diverses arachides et patates douces, les échalotes, l'ail, le piment, les oranges, les cultures de plantation saisonnière, canne à sucre et patchouli, ainsi que les plantations annuelles, sagou, huile de palmier, noix de coco, caoutchouc, café et cacao, ainsi que la zone de maison alimentaire durable, KRPA. Kuntoro a ajouté, les activités de la zone de maison alimentaire durable devrait encourager les activités visant à accélérer la diversification et la consommation d'aliments et à renforcer la sécurité alimentaire des communautés. Cette activité a été réalisée à travers la construction de pépinières, de parcelles de démonstration, soit d'emplots, et de jardins scolaires. Kuntoro a expliqué que les activités de KRPL accorde la priorité aux ressources locales accompagnées de l'utilisation des connaissances locales. En 2018, le ministère de l'Agriculture a alloué un budget d'activité de la zone de maison alimentaire durable d'un montant de 115 milliards rupiah pour 2300 groupes répartis dans 33 provinces. Pour la Papouasie et la Papouasie-Occidentale, le budget total alloué à cette activité est 8,65 milliards rupiah. Les activités menées pour soutenir la mise en valeur des ressources humaines se font par le biais des écoles de terrain d'un montant de 10 unités en Papouasie et 3 unités en Papouasie-Occidentale. Les écoles de terrain sont un moyen d'apprentissage partagé entre les vulgarisateurs et les agriculteurs. En outre, l'adaptation technologique de chaque unité est réalisée en tant que support de transfert de technologie à la base locale. Cher ami, c'était mon Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant le Molouk pour profiter des délices du café Sibou Sibou. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. En plus de la beauté du tourisme, l'Indonésie est également appréciée pour son café. Presque toutes les régions ont un type de café distinct avec un arôme tintant. L'un d'entre eux est le Molouk. Bien que n'étant pas une région productrice de café, le Molouk propose une boisson au café distinctive. En outre, les habitants de Molouk, en particulier d'Ambon, sont en effet réputés pour leur tradition de boire du café. Habituellement, dans un café, ils boivent du café tout en parlant avec des emboutures de leur habitude. Cette boisson au café typique de Molouk s'appelle le café Sibou Sibou. Le Sibou Sibou vient de la langue molukoise qui signifie brise légère. Alors qu'en Ambonais malais, le café restaurant Sibou Sibou s'appelle Hail Buang Lanchik qui signifie maison pour soulager la fatigue. Parce que les habitants de Molouk ont l'habitude de boire du café, il existe de nombreux cafés à Molouk. Ce café Sibou Sibou est généralement fabriqué à partir du type de café robusta et en purée traditionnelle afin de ne pas éliminer l'arôme original du café. Le café Sibou Sibou est servi différemment du café en général. Une tasse de café Sibou Sibou contient des morceaux supplémentaires de graines ketapang et un mélange de fines poudres de girofle et de citronnelle. On peut également servir du café avec fort assaisonnement de gingembre, saupoudré d'amandes et additionné du lait concentré sucré. Donc, quand il est bu, il sentira un arôme de café fort et distinct que vous n'avez peut-être jamais essayé. En outre, une tasse de café Sibou Sibou sera plus délicieuse si elle est accompagnée de petits gâteaux d'Ambon tels que les kasbi, des collations à base de manioc écrasé avec du sucre de pomme et enveloppé dans des feuilles de noix de coco. Il existe également des gâteaux koyabu, bruder saguré, pulut siram, du riz gluang qui est aspergé de sucre de palme ou de sucre brun. Parmi les collations typiques pour accompagner du café Sibou Sibou sont entre autres brownies aux noix, maïs soufflé et crêpes typiques d'Ambon, enfloissées par les Portugais et les Néerlandais lorsqu'ils contrôlèrent les Molouk du 15e au 17e siècle. Sur les murs du café sont généralement exposées des photographies de chanteurs célèbres d'Ambon. Habituellement, dans ces cafés, il y a de la musique en direct, généralement composée d'un groupe comprenant un chanteur qui chante des chansons occidentales, indonésiennes et bien sûr des chansons d'Ambon. Les visiteurs qui boivent du café au café Sibou Sibou vont sentir l'atmosphère typique d'Ambon. Dès le début de l'entrée, vous serez généralement accueillis par Jojaro Jojaro ou les serviteurs vêtus d'un costume typique des Moluques. Au café, ils peuvent se détendre en écoutant de la musique tout en dégustant du café Sibu Sibu, censé apporter la paix tout en restaurant en état de fatigue après une journée de travail. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur le train de banlieue de Java Central. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Si vous voulez visiter Yogyakarta, mais aussi visiter d'autres villes au Java Central, vous serez bientôt facilité par la présence d'un train de banlieue qui relie les villes à Java Central. Ce train de banlieue sera immédiatement lancé par Kereta Api Indonesia Société Anonyme le 1er décembre. Ce train de banlieue reliera les villes à Java Central et la région spéciale de Yogyakarta en manière circulaire. Le directeur des relations publiques de Kereta Api Indonesia Société Anonyme, Zone d'opération 5 Purwokerto, Suprianto, a déclaré que le lancement du train devrait élargir le choix de mode de transport pour diverses choses, tant pour le tourisme, l'emploi, l'éducation et autres. Ce train de banlieue passera la route Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto et inversement. Selon Suprianto, le train de banlieue a été lancé pour répondre aux besoins des habitants de la région méridionale à Java Central, notamment de ceux souhaitant se rendre à Semarang ou dans d'autres villes de la côte nord et inversement en prenant un train. Un exemple est pour les résidents de Cilacap qui vont à Semarang. Bien sûr, ce sera plus facile car il n'est pas nécessaire de prendre le train depuis Purwokerto, mais il peut aller directement à la gare de Kroya. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. L'édition du magazine musical aujourd'hui va vous présenter des chansons de Terry. Restez avec nous à www.voynews.id, 33 de 5 kHz ou par l'application de RRI Play. Pour commencer notre rencontre aujourd'hui, je vous donne la chanson intitulée « Boutiran debout » ou en français « Poussière de grand ». Bonne écoute!
Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Oh,
chers auditeurs, la chanson s'intitule « Boutiran debout » que vous avez écoutée est interprétée par Teriana Fatia Shahab, ou plus connue sous le nom de Terry. Cette chanson décrit le cœur brisé parce que son amour a été trahi. L'amour et l'affection qui en étaient là, tout ce temps a changé la tristesse. Chers auditeurs, c'est une chanson de rumeur qui était très populaire en 2011. Un an plus tard, Terry la chante à nouveau, dont l'arrangement est légèrement différent avec son style distinctif. Cette chanteuse indonésienne est une descendante d'un mélange de néerlandais, d'arabe et de Minangkabau ou Sumatra de l'Ouest. Grâce à son talent de chanteur et à son fort caractère vocal, Terry est devenu l'un des chanteurs assez célèbres sur la scène musicale indonésienne. Chers auditeurs, nous écoutons ensuite une chanson dont le titre est Janji Manismo.
Kebesaranmu Tuhan, aku bagai seorang gembara jalanan, terombang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan, tahan untuk menopang kasih, mungkinkah sudah tahan? Kan selalu sendirian. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan layan kasih sayang.
Voilà la chanson Janji Manismu, ou en français Ta douce promesse, par Terry, sur son premier album en 2006. Cette chanson est devenue la chanson phare de cet album. Avant, Janji Manismu avait été popularisé par la chanteuse malaisienne s'appelle Aisha. Cette chanson est celle qui a propulsé le nom de Terry dans le monde du divertissement indonésien. Janji Manismu raconte de quelqu'un qui a été blessé parce que son amant avait brisé sa douce promesse et il s'enfuit. Il ne reste plus que des blessures et de la tristesse. Une combinaison de voix fortes et de ses arrangements musicaux rend cette chanson agréable à écouter. Bon, chers auditeurs, je vous donne ensuite la chanson intitulée « Kaulah Segalanya » ou en français « T'es toute pour moi » et une chanson popularisée par Ruth Sahanaya. Suivez la chanson intitulée « Kemesraan » ou en français « Amitié ». Chers auditeurs, ces deux chansons terminent également notre réunion aujourd'hui. Et voici les deux chansons chantées par Terry. J'ai dit au revoir. Bonne écoute.
Hanya kau seorang.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya. Jiwa kita
sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa terjerat saat itu.
Kemesraan ini janganlah cepat.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les chansons indonésiennes. Merci à tous, au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.